nous avons, et oui, il y a de la place pour tous, il y a de la place dans mon cœur. Puis le Saint-Esprit nous pousse à prier. Puis quelques jours après, on apprend que cette personne a eu à ce moment-là une délivrance. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais il y a eu une délivrance. Mais nous n'avons pas à nous attribuer ça, mais le Seigneur nous a poussé. Nous sommes un seul corps. Quand un membre souffre, tous les autres souffrent. Paul, dans sa prison à Rome, pouvait être en même temps à Colosse et sentir ce qui se passait à Colosse. Et vous voyez, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, il faut vivre cette mort. Hein. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons des préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Et oui, c'est ça, hein. Vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Apparemment, hein, on est religieux. Ah, hein. Le chemin qui mène à l'hypocrisie. Les pharisiens, ils étaient religieux. Hein. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire et l'humilité, le mépris du corps. Mais est-ce que le corps, est-ce qu'il est méprisable? Est-ce que Jésus nous a enseigné que le corps était méprisable? Mais pas du tout, n'est-ce pas? Alors, dans bien des églises, pendant longtemps aussi, on a prêché le mépris du corps, ce qui n'empêchait pas de commettre tout ce qu'on voulait avec le corps. Hein? Croyez-le bien. J'ai entendu, à l'âge de 18 ans, quand j'étais en convalescence en Italie, un responsable d'église dire: moi, quand je suis dans la chair, C-H-A-I-R-E, je prêche, je suis religieux. Mais quand je suis hors de la chair, R-E, je suis dans la chair sans E. Vous comprenez, il y avait double vie. Et vous savez ce qu'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Est-ce que la chair peut faire? Alors, vous voyez, on a des apparences, mais il n'y a pas la réalité. Le mépris du corps. On n'avait pas à mépriser votre corps. Votre corps, qu'est-ce qu'il est? Le temple du Saint-Esprit. Il doit devenir la demeure du Seigneur. Comprenez-vous? C'est cela qui nous est enseigné. La demeure du Seigneur, notre vie cachée dans le Christ, en Dieu, mais notre corps y participe. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de quoi? De la chair. Ben justement, nous n'avons pas à contribuer à la satisfaction de la chair, à être content de soi. Hein? Comme la Odyssée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis content de moi. Pourquoi? Parce que je me prive de cela. Je me prive de ceci, je me prive de cela. On nous parle du jeûne. Ah, il faut jeûner. Bien oui, moi je jeûne aussi, mais quand ça me sert. Comprenez-vous? Le Seigneur nous a donné tout pour que ça nous serve. Et c'est ça la vraie libération. Pourquoi le chrétien est-il délivré des éléments du monde et des règles qu'impose une religion? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Hein? C'est clair. Voilà. C'est simplement ça. Vous êtes mort alors. Qu'on ne nous impose plus. On ne va pas imposer quelque chose à un mort. Je dirais à un mort, tu sais, tu ne dois pas toucher ça. Tu ne dois pas manger ça. Tu ne dois pas boire ça. Bêtise. Non, mais c'est ce que nous faisons bien souvent. Vous êtes mort. Alors, puisque nous avons un corps, offrons notre corps à Dieu en sacrifice vivant, sain et agréable. Allez. Bien voilà. C'est un commencement de méditation. Vous allez continuer à vous pénétrer de ces vérités pour avoir la vraie libération. Et vous comprenez pourquoi, dans le premier volet, on avait parlé de la mort et de la résurrection comme base. Mais, parce que, il y avait des réalités, il y a le péché, il y a la chair, la faiblesse de la chair, il y a la loi. Mais de tout cela, nous sommes libérés par la mort de qui ? La mort de Christ. C'est pourquoi dans la Sainte Cène, qui est appelée l'Eucharistie, eh bien, qu'est-ce que nous rappelons ? Nous rappelons la mort du Seigneur. Parce que ce n'est pas, comme je dis souvent, par ses paroles que Jésus nous a sauvés, c'est par sa mort. Les paroles dont vous entendez souvent parler, le sermon sur la montagne, qui réunissait des grandes foules, ça n'a pas sauvé les gens. Mais qu'est-ce qui a sauvé les gens ? C'est la mort de la croix. C'est pas quand Jésus était acclamé qu'il a sauvé les gens. C'est quand il était crucifié. Et nous aussi, voyez-vous, c'est pas quand on nous acclame que nous sommes le plus près du Seigneur. C'est souvent quand on se sent misérable, petit, rien. Alors le Seigneur est tout. Et on se confie en lui. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je ne le vis plus selon la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien voilà, nous allons vous laisser vous sustenter par le souper, l'heure est déjà venue, et on remet peut-être à ce soir la parole qui vous a touché dans ce chapitre. Puis ne vous découragez pas, si même il y a des choses qui vous paraissent encore difficiles à comprendre, il faut s'y plonger, et on s'y habitue, petit à petit, ça entre, et le Seigneur vous donnera sa grâce. Merci au Dieu de ce que nous pouvons maintenant nous en aller pour ce repas qui nous montre que tu es aussi le Dieu de notre corps. Et nous voulons te rendre grâce de nous donner encore cette nourriture, alors que dans ce monde, il y a tant de personnes qui ont faim, que nous puissions vraiment te dire merci pour tous tes bienfaits, toi qui t'occupes de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, ce soir, à 7h30, alors mes amis, nous sommes prêts pour un nouveau départ. On va décoller. Vous avez attaché vos ceintures ? À la porte de là. Comment s'est passé votre atelier ? Bien. Alors on va encore implorer le secours du Seigneur. Ô Dieu, tu nous vois à la fin d'une semaine et à la fin d'une journée, et nous voulons te demander que réellement nous puissions vivre ce que nous dit ta parole. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Nous attendons cette lumière de toi. Nous voulons vraiment être cachés en toi et nous attendre à cette révélation de ton esprit sur la personne de Christ. Tu nous as donné Jésus et tu nous as envoyé le Consolateur pour que pendant l'absence de Jésus, nous puissions, par le Consolateur, recevoir tout ce qui vient de ton Fils bien-aimé. Parce que tu nous as appris que le Saint-Esprit exalterait le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ces vérités nous deviennent familières, que nous puissions vivre de ces faits et que nos sentiments intérieurs correspondent à ceux du Christ qui a tout accompli pour notre délivrance. Amen.
dans ce samedi soir du 7 octobre 1989, nous poursuivons notre étude des faits divins et nos sentiments. Ce troisième volet, ce deuxième volet, caché avec le Christ en Dieu. Vous savez que ce soir, je suis allé faire quelques pas là, sur la colline, et il y avait un magnifique coucher de soleil. C'était beau. Vraiment, il y avait une lumière merveilleuse. Et je me disais, en voyant le soleil descendre, voilà, le soleil se cache. Christ est maintenant caché. Il n'est pas vu du monde. Mais qu'est-ce qui va manifester cette lumière du soleil dans la nuit qui vient? C'est la lune, qui n'a pas de lumière propre. Eh bien, notre service dans la nuit de ce monde, c'est de refléter la lumière du soleil que le monde ne voit pas. La lune reflète la lumière du soleil. C'est pourquoi la lune est une image de l'Église, qui devrait être la manifestation dans la nuit, pendant l'absence du Seigneur, pendant son absence, manifester la lumière du soleil. Parce que le croyant, il a la vue de la foi et il voit Jésus. Et il peut refléter Jésus dans les ténèbres. Le monde ne voit pas le Christ, mais il peut le voir en vous. Tout nous enseigne. Vous voyez, quand on est dans le grand livre de la création et qu'on pense au Seigneur, les pensées nous sont données. Et ensuite, je suis venu dans mon bureau, et le Seigneur, je crois que c'est lui, m'a demandé de vous relire, pour tout lier, depuis le verset 16 du chapitre 2, mais cette fois, je m'en vais vous lire dans cette version en français courant, depuis le verset 16. Puisque le Seigneur a triomphé de toutes les puissances, puisque à la croix, il a tout accompli pour que nous soyons délivrés. Alors, verset 16. Ainsi, ne laissez personne porter des jugements sur ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, de la lune et du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par un personnage quelconque qui prend plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges. On a l'air très spirituel, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'adonner au culte des anges? Ce sont les créatures de Dieu. Puis savez-vous que les saints jugeront les anges? Alors vous n'avez pas à faire avoir le culte des anges. Puis les anges sont les serviteurs de Dieu employés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors restez biblique. Et quand Jean l'apôtre, qui recevait toutes ses instructions par un ange, il était tellement ébloui par tout ce que l'ange lui disait, à un moment donné, qu'est-ce que Jean a voulu faire? L'adorer. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il l'a fait sur lui. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Donc ne vous laissez pas prendre par tout ce qui vous est dit. Contrôlez toute chose par la parole de Dieu. Même ce qui a l'apparence de la spiritualité. Et puis, alors avec le culte des anges, vous mettez quelqu'un entre vous et le Seigneur. Entre vous et Dieu. Or il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Alors vous voyez, vous devez avoir une intelligence éclairée. Alors, ne vous laissez pas prendre
par ces pratiques extérieures d'humilité qui vous poussent au culte des anges, qui attachent beaucoup d'importance aux visions qu'il a eues. Hein? Vous avez maintenant des personnages qui vous parlent tout le temps des visions qu'ils ont eues. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous laisser troubler par leurs visions? Ils ont les visions de leur propre cœur. Lisez le chapitre 23 de Jérémie. Les visions, il faut toujours les contrôler. Hein. À quoi devons-nous revenir? À la parole de Dieu. Les visions, ce n'est que de la paille. Nous, nous voulons le froment. Alors, revenons à la parole de Dieu. Il y a des visions, mais ces visions doivent être toujours en accord avec la parole de Dieu. Un tel homme qui vous parle toujours de ses visions, de ceci et de cela, et qui veut vous conduire, un tel homme est rempli d'orgueil. Il a les apparences de l'humilité. Ils sont très humbles. Mais un tel homme est rempli d'orgueil. Et cela sans raison, par sa façon humaine de penser. Et vous savez, la façon humaine de penser, elle est inspirée par qui? Par Satan. Quand l'apôtre Pierre a eu une révélation de Dieu, il a dit une vérité, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais quand quelque peu de temps après qu'il a confessé ainsi le Christ, le Seigneur a parlé de ses souffrances et de sa mort. Le cher Pierre a cru qu'il faisait une dépression nerveuse quand il disait qu'il allait à Jérusalem et puis ce qu'il attendait, la mort. Et il lui dit, Seigneur, que cela ne t'arrive. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais des hommes. Alors donc, vous voyez qu'il y a deux sources d'inspiration. Il y a celle de Dieu. Quand vous avez une pensée juste, vous n'avez pas trouvé ça tout seul. Ça nous donne l'humilité. Hein? Nous donnons gloire à Dieu pour une pensée juste. Mais quand nous avons des pensées fausses, ça nous vient de qui? De Satan. Alors nous n'allons pas les garder. Nous allons discerner d'où elles viennent et nous les repoussons. Vous voyez, un tel homme est rempli d'orgueil, et cela sans raison, par sa façon humaine de penser. Il ne reste pas attaché au Christ, qui est la tête. Vous devez demeurer attaché au Christ. Vous avez été attaché au Christ. C'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Nous sommes ensemble membres du corps de Christ et notre édification, elle se fait par le Saint-Esprit. Nous recevons de nos frères, vous êtes des dons pour moi et je suis un don pour vous, n'est-ce pas? Mais nous nous appartenons dans le Seigneur. Et nous travaillons ensemble. Nous n'avons pas à créer une unité entre nous. C'est lui qui est notre unité. Je ne peux pas être uni à Christ et ne pas être uni à ceux qui sont au Christ. Et plus nous sommes près de Christ, plus nous sommes près les uns des autres. J'ai souvent montré la vraie unité sous la forme d'un triangle, hein, d'un triangle équilatéral, et la fausse unité, ce serait de la droite ici. Si moi, je veux manifester au monde l'unité avec d'autres chrétiens, je m'en vais vers eux qui seraient sur la gauche. Alors nous avançons l'un vers l'autre, et puis nous disons, c'est assez scandaleux ces divisions entre chrétiens, alors on va abandonner certains principes, nous, puis vous abandonnez les vôtres, et puis on s'associe, hein. On s'allie par des concessions réciproque. Mais on est toujours aussi loin du sommet. Le sommet du triangle, c'est le Christ. Hein. Alors, la vraie marche vers l'unité, ce n'est pas une marche à la base du triangle, c'est une marche de la droite vers le sommet et de la gauche vers le sommet. Alors, qu'est-ce qui arrive? Plus nous montons vers le Seigneur, plus le Seigneur occupe la première place, plus nous sommes
proches les uns des autres. Voilà la vraie unité. Avancez vers le Seigneur et vous avancez vers les autres croyants. Et puis nous nous sentons vraiment unis en Christ. La vérité, elle est en Jésus. Elle n'est pas dans toutes ces manifestations où l'on veut faire nous-mêmes l'unité. C'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures, ses articulations, et qu'il grandit comme Dieu le veut. Puis ensuite, vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des éléments spirituels du monde. J'aime bien qu'ils aient mis cela, hein, des éléments du monde, hein, dans nos traductions habituelles, mais des éléments spirituel, hein. Ça a une apparence de spiritualité. On prend des éléments du monde, pas des éléments grossiers, hein, mais des éléments qui ont l'air assez justes. Hein. Il y a une certaine spiritualité. Mais ce sont des éléments spirituels du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez à ce monde? On n'est plus de ce monde. On est encore dans le monde, mais on n'est plus du monde. Ces éléments peuvent aller pour le monde qui ne connaît pas Dieu. Et vous avez pu être dans ces choses-là. Mais maintenant que vous connaissez Dieu en Jésus-Christ, que vous êtes lié à Jésus-Christ, bien vous n'appartenez plus à ce monde. Pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez encore à ce monde? Pourquoi acceptez-vous qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela. Parce que vous savez, ça devient une religion, hein, cette question de nourriture. J'ai rien contre cette nourriture, bien loin de là. Mais il ne faut pas que ça devienne une religion. En disant d'après cette nourriture-là, mes pensées deviennent alors spirituelles. Bon, non. Vous ne connaissez plus le Seigneur, alors. Ne goûte pas ceci, n'y touche pas. Elle concerne des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Ça tient un moment, cela. Puis après, c'est fini. Ce sont des modes qui passent. Il s'agit là de règles et d'enseignements dus à qui? Aux hommes. Voilà la traduction que donne le français courant. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse avec leur culte, qui vient de la volonté humaine. Leur pratique d'humilité et d'obligation qu'elles imposent de traiter durement le corps. Leur pratique d'humilité et l'obligation qu'elles imposent de traiter durement le corps. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut ? C'est mépriser le corps. Qu'est-ce qui a fait le corps? C'est Dieu. Alors, ces règles d'ascétisme qu'on a vues au travers de l'histoire de l'Église, ça servait à quoi? De dire, je me suis flagellé pendant 2 heures. Si ça vous plaît. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs physiques. Vous voyez que c'est envoyé, ça, hein, pour que ça soit compris. Il y en a qui se sont mutilés. Elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs physiques. Et qu'est-ce que vous avez dans la traduction seconde? Je vous ai juste lu cela pour que vous voyez comment on peut quand même s'aider à comprendre. Ce n'est pas en contradiction avec que nous avons lu dans les autres versions, mais c'est un langage plus simple. Verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. On veut mépriser la chair par la chair. Et ça ne donne que de la chair. Comprenez-vous? On reste dans la chair avec tout cela. Alors que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et que vous êtes mort à tout cela. Alors, nous passons maintenant à notre chapitre troisième dans votre version. Ah, il y avait encore une pensée qui me venait, n'est-ce pas? Qu'aucun homme, verset 18 du chapitre 2, sous une apparence d'humilité et par un vain culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Comment est-ce que nous avons lu ça ici? Que vous ne soyez frustrés, hein? Oui. Du prix. Vous savez qu'il y a un prix. C'est pas le salut. C'est quoi? C'est la couronne. Si depuis votre conversion, vous vous êtes engagé dans les pas du Seigneur pour marcher comme lui a marché, il y aura un prix qui vous sera donné. L'apôtre Paul dit que le prix, il ne l'a pas encore atteint. Hein? Il court cherchant à le saisir. Il court les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Pour gagner le prix. Alors j'avais une drôle de pensée, et je vous le dis, toutes ces pratiques, c'est des anabolisants. Alors quand vous prenez toutes ces pratiques, hein, pour être actuel, hein, eh bien oui, ça vous donne des muscles. Mais souvenez-vous de Ben Johnson. Hein? Tout d'un coup, on découvre, peut-être pas dans votre urine, mais enfin, que c'est truqué. Et puis vous perdez le prix, vous comprenez? Vous voyez comme tout est actuel, le prix de la course. Alors laissez de côté ces pratiques-là. Parce que oui, ça vous gonfle. Mais après on est dégonflé. Puis on n'aura pas la couronne. C'est pas que vous perdez votre salut, mais vous perdez la couronne. Et cette couronne, vous devriez l'avoir pour pouvoir la jeter aux pieds du Seigneur. Mais cette couronne, nous la recevons que lorsque nous serons devant le Seigneur. Nous ne passons plus en jugement quant à nos âmes. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons plus en jugement. Mais pourtant, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour être examiné quant à nos œuvres de chrétiens. Ce sont nos œuvres qui seront examinées. Quelles ont été nos œuvres depuis notre conversion? Est-ce que c'était les œuvres que le Seigneur voulait que nous accomplissions? Ou bien est-ce que nous nous sommes lancés, nous, dans toute espèce d'œuvres qu'on nous proposait? Et là, je trouve que les conducteurs spirituels ont une terrible responsabilité. C'est pour ça que c'est toujours avec crainte et tremblement que j'ouvre la bouche pour parler aux âmes. Parce que j'ai un témoin. Et comment est-ce que j'oriente les âmes? Parce que dans nos églises, dans nos communautés, il y a une foule de choses qu'on est en train d'introduire et qui ne viennent pas de Dieu. Et puis même ce qui se passe dans le monde ne nous dit rien. Or, on devrait se souvenir de Ben Johnson. Même dans ce domaine-là. Parce que c'est pas drôle, hein? Quelqu'un me disait que là, à Séoul, quand il a eu sa victoire, tous les Canadiens étaient gonflés. Hein, on était heureux, fiers d'être Canadiens. Puis tout d'un coup, quand ça s'est découvert, on cachait sa nationalité. Tout peut nous enseigner, comprenez-vous? Alors restons petits à nos propres yeux, et puis contrôlez toujours tout par la parole de Dieu. Puis ne pensez pas, oui, mais je suis bien obligé de le croire, c'est un grand personnage. Il a des titres. Ce ne sont pas les titres qui doivent vous impressionner. Qu'est-ce qu'on disait de Jésus? C'est le charpentier. Voilà. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait? C'est fait. La résurrection du Christ a eu lieu, mais ça a été aussi votre résurrection spirituel. Mais la mort de Christ a été votre mort à votre vie passée. C'est un fait. Et vous le croyez, pas parce que vous le ressentez, mais parce que Dieu l'a dit. Et il ne peut pas se tromper. Et si vous êtes ressuscité avec Christ. Alors, qu'est-ce que nous avons à chercher? À vivre selon la terre? Selon ce qui se dit sur la terre? Non. Nous avons à vivre selon ce que nous connaissons du ciel. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pour l'instant, il est caché au monde. Il a été manifesté au monde en son temps, mais maintenant, il est reparti auprès du Père, d'où il était venu, et en attendant son retour, c'est à nous qu'est confiée la tâche d'apporter sa lumière et ses pensées. Lui, quand il était sur la terre, de qui parlait-il? De son Père. Son cœur était resté où? Dans le sein du Père. Et ses doctrines à lui, eh bien, il disait, c'est pas les miennes, c'est celles de mon Père. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père, il ne faisait rien qu'il n'ait entendu du Père. Ses œuvres, c'était celles de son Père. Ses paroles, c'était celles de son Père. Il ne s'attribuait rien à lui-même. Et alors, nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes en Christ, sachant là où il est assis, nous sommes dans les Éphésiens aussi considérés déjà, quant à notre position, comme déjà assis dans les lieux célestes. Nous avons part à son repos. Il est donc assis dans les lieux célestes et nous sommes dans les Éphésiens déjà considérés comme assis en lui dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances. De sorte que le combat que nous avons à mener contre les puissances spirituelles de méchanceté, nous le menons, ce combat, de dessus le trône. Nous n'essayons pas de faire une trouée jusqu'au Seigneur, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, et alors nous combattons les puissances de dessus le trône. Nous avons déjà l'avantage, nous devons le croire. Gardez toujours à la pensée votre position céleste. Mais dans les Colossiens, nous sommes alors vus encore marchant sur la terre. Et alors c'est pour ça que nous avons des exhortations. Il n'y a pas de contradiction, mais c'est deux positions. Alors, dans les Colossiens, nous sommes en quelque sorte redonnés à la terre pour avoir un témoignage pendant que le Christ est dans la gloire. Mais il doit y avoir une relation constante entre nos pensées et le Seigneur. Quand Jésus était sur la terre, sa relation était constante avec qui? Avec son Père. Eh bien, il doit en être de même pour nous. Tout dans notre vie doit se rapporter aux choses célestes. Parce que les choses de la terre, nous allons les quitter. Nous allons finir. Alors, si votre trésor est sur la terre, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez le perdre. Mais si votre trésor est dans les cieux, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez au-devant de votre héritage. Comprenez-vous? C'est ça qui est merveilleux. Alors, pour le chrétien, tout est devant nous. Pour l'homme du monde, tout est derrière lui. Alors il regarde, ce dernier regard du mourant, sur tout ce qu'il avait, sur tout ce qu'il a attaché. Et qu'il doit tout quitter, c'est un déchirement. Et qu'est-ce qu'il a devant lui? Le trou. Hein? Ah oui, et je veux qu'on danse, et je veux qu'on chante, quand on me mettra dans le trou. Vous connaissez Jacques Brel? Hein, belle. Hein, c'est ça? C'est le vide? C'est la fosse? Mais non. Tout est devant vous. Alors, vous comprenez, c'est une joie même du mourant qui est riche pour Dieu, qui a compris que sa vie, c'était un passage qui lui était donné sur la terre pour glorifier qui? Dieu, son Père. Pour refléter quelque chose de son image. Alors, ça vaut la peine d'avoir dû passer par certaines épreuves pour comprendre cela. Alors nous avons une espérance vivante qui ne confond point. Alors, nous cherchons maintenant les choses qui sont en vous. Alors, ça répond à la question que je posais là. Quels sont les sentiments et les affections que nous devons avoir ici-bas si le Christ, notre vie, est dans les cieux? Ce sont des sentiments et des affections célestes. Mais alors, il faut que le ciel compte pour nous. Mais est-ce que le ciel compte pour nous? Oh, mais j'y suis jamais allé, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, c'est rien. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas parlé du ciel? Qui est-ce qui peut nous révéler ce qu'il y a dans le ciel? Des gens qui ont des visions? Celui qui était au ciel et qui en est descendu, vous avez toujours la réponse à toutes vos questions. J'aimerais bien que vous saisissiez cela. Quand vous avez une question, vous dites, que dit l'Écriture? Et il y a une réponse. Regardez ce que Jésus disait au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Jean 3, verset 12, il disait ceci. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, il disait ça à Nicodème, hein, est-ce que vous avez cru ce que Jésus a dit quand il parlait des choses terrestres? Est-ce qu'on on peut croire sa parole au sujet des choses terrestres? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je ne peux pas même vous en parler des choses célestes. Vous ne croyez pas même ce que je vous dis quand je vous parle de choses terrestres. Quand je vous dis, regardez les lys des champs, comment ils croissent. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et vous, pourquoi vous mettez-vous en souci pour votre vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, leur Père Céleste les nourrit. Alors, ne vous mettez pas en souci. C'est cela qui m'a fait comprendre que quand je me mettais en souci, je péchais. Parce que Jésus a dit, ne vous mettez pas en souci. Et que mes soucis, pour en être délivré, je dois les traiter comme des péchés. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on a péché? On les confesse. Rejetant sur lui tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai? Bien, rejeter tout sur lui pour pouvoir courir la course qui est devant nous. Mais pas chargé de nos soucis. Vous voyez ces chrétiens chargés. N'est-ce pas? Qui n'ont pas, comme dit ma femme, la tête attachée à une étoile. Parce qu'elle n'aime pas quand je suis un peu comme ça. Il faut que je me redresse. Et souvent, quand je suis loin d'elle, je pense à ce qu'elle dit. Attache ta tête à une étoile. Je sais bien qu'elle ne veut pas que je vienne un petit vieux. Mais enfin. Alors, il faut te discipliner. Moi, j'essayais de dire, mais je me penche sur les âmes. Si vous voulez, hein? L'homme, c'est l'homme. Cherche toujours à s'excuser. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir avalé un manche à balai. Comme ça, il y a une raideur qui n'est pas de la grandeur. Il faut savoir aussi se courber, mais devant Dieu. Alors, Jésus disait au verset, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez que c'est vrai, hein? Il était sur la terre, mais en même temps, il était dans le ciel. Ça, c'est merveilleux, ces passages. On s'en nourrit. Des paroles se sont-elles trouvées, dit Jérémie, je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. C'est la méditation de la parole. Alors, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand je mets mes affections aux choses de la terre, je sais que j'aurai des déceptions et puis qu'un jour je devrai les quitter. Et puis, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tout notre trésor, notre vraie vie, elle est cachée en Dieu. Et alors, le monde, si vraiment nous avons ce secret d'une vie cachée, hein, la vie cachée en Dieu, le monde voit qu'on ne vit pas comme lui. Et que nos satisfactions, on ne les a pas dans les boîtes de nuit, on ne les a pas dans les plaisirs
de la chair, du sexe et de tout ce que vous voulez aujourd'hui, ou de l'alcool. Et il se dit, mais alors comment est-ce qu'ils peuvent être heureux, ces gens-là? Ils sont privés de tout ce qui nous est nécessaire à nous pour qu'on soit heureux. Et qu'est-ce qui leur est nécessaire? Pour qu'il y ait du sel dans leur vie, il faut qu'il y ait du péché. Parce qu'une vie sans péché, c'est une vie sans sel. Les délices du péché. Mais ces délices, combien de temps durent-ils? Ça finit par le suicide. Quand on a voulu tout connaître, alors voilà pourquoi on nous dit maintenant au Québec, c'est le pays où il y a le plus de suicide parmi les jeunes, parce qu'ils ont tout connu, trop vite et mal, faussement. Puis alors, ils veulent faire une dernière expérience, la mort. Savoir ce qu'il y a de l'autre côté. La vie ne peut plus rien leur donner. Alors ils pensent que la mort va leur donner quelque chose, alors que la mort nous fixe dans l'état où elle nous a pris. Comprenez-vous? Ce n'est pas le suicide qui est la délivrance. Puis nous n'avons pas le droit d'attenter à notre vie. C'est Dieu qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Alors, ce n'est pas moi qui fixe mon heure, mais tant que je vis, j'ai à le servir, puisqu'il m'a sauvé. Alors, à quoi sommes-nous morts, verset 3? Car vous êtes morts, morts avec le Christ. C'est cela, nous n'avons pas besoin de nous suicider. Jésus est venu nous donner la possibilité de mourir en lui. Non seulement il est mort pour porter nos péchés, mais il nous a pris dans sa mort. Et quand j'accepte Jésus-Christ, j'accepte de mourir en lui. C'est fini avec ma propre vie pour vivre maintenant de sa vie. Vous êtes mort et votre vie est cachée dans le Christ en Dieu. Voilà notre relation. Mais alors le monde peut nous poser une question, mais quel est votre secret? Alors qu'est-ce que vous pourrez dire? Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Vous voyez qu'on ne force pas le témoignage, mais quand il y a vraiment un témoignage, ça pose des questions à des gens du monde. Je vous dis, mais vous, vous n'êtes pas comme les autres. Pourquoi? Et vous savez, on fait des drôles d'expériences en voyage. Une certaine dame, on venait de voir un grand accident d'avion, puis je devais prendre l'avion, et puis elle vient vers moi, moi je ne la connaissais pas du tout. Puis elle me dit, est-ce que vous me permettriez de m'asseoir à côté de vous dans l'avion? Et pourquoi? C'est parce que vous avez l'air d'avoir la paix. Parce qu'elle avait peur, il y avait une grande affiche qu'un avion était tombé, et puis alors tout le monde avait peur, il y en a qui avaient décommandé leur voyage. Moi, j'avais rien de spécial. Mais c'était une occasion de lui dire pourquoi j'avais la paix. Puis j'ai laissé s'asseoir à côté de moi. C'était pas un flirt. Mais, évidemment, si vous voulez penser des mauvaises choses, vous pouvez le penser. Hein. On peut penser n'importe quoi. Puis c'est vrai. Je sais ce qu'est mon cœur. Mais enfin, le Seigneur nous donne des occasions. Quand Christ, votre vie, alors, paraîtra, ça, nous pouvons maintenant déjà répondre avec douceur et crainte de la raison d'espérance qui est en nous. Alors nous leur présentons la personne de Christ. Alors ou bien nous serons odeur de vie, ou bien nous serons odeur de mort. Notre témoignage sera reçu, et ça sera peut-être une conversion, ou bien alors, c'est ça, puis on se détournera. Mais quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais maintenant, j'ai l'impression que nous nous sommes trop montrés. Hein. Nous nous sommes trop montrés au monde, nous-mêmes, hein, au lieu de montrer qui? Le Christ. Alors, on se montre comme chrétien, on montre nos muscles chrétiens, puis voilà qu'on a pris tellement d'anabolisants, ça tient pas. Et ça se découvre. Et alors, fini. Alors, il ne faut pas en faire à croire. Il ne faut pas essayer de faire les spirituels. Enlevez vos masques. Vous savez, ces masques du dimanche. Alors, le dimanche, on va au culte. Alors, le dimanche, on est très chrétien, etc. Puis la semaine, on a communion à la table des démons. On se nourrit du monde. C'est les appétits de la chair. Alors, le dimanche, on est. Regardez-moi ça. Ça dégoûte le monde, parce que le monde, il a des yeux qui nous regardent. Puis pas seulement le monde, mais tout le ciel nous regarde, tout le ciel nous contemple. C'est constamment filmé d'en haut. Rendez-vous compte? Mais les caméras célestes, c'est autre chose que celle de la Terre. Hein? Alors, voilà ce que nous comprenons maintenant. C'est les choses du ciel qui vont nous occuper. Et parce qu'on est encore sur la terre, verset 5, faites donc mourir ou mortifier les membres qui sont sur la terre. Parce qu'on est encore dans un corps, hein, et c'est avec quoi qu'on pêche? Avec nos membres. Si moi je garde la disponibilité de mes membres, ou si la chair garde la disponibilité de ses membres, est-ce que la chair du chrétien s'est améliorée? Les membres feront les mêmes choses qu'avant. Hein? Ah, on a compris la justification par la foi, mais notre vie n'est pas du tout transformée. Ce qui faisait dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que ça change ces conversions? Parce qu'une fois qu'on les connaît, on les a entendus rendre témoignage qu'ils avaient reçu Christ, etc. Puis quand on les voit vivre, ils continuent à mentir, ils continuent à employer le nom de Dieu en vain, même s'ils estropient le nom de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce qui peut faire mourir les membres qui sont sur la terre? C'est le nouvel homme, que nous allons voir tout à l'heure, qui ne veut pas prendre les habitudes du vieil homme. Le vieil homme, avec ses membres, qu'est-ce qu'il faisait? Il péchait, il se livrait à toutes les convoitises possibles. Parce que c'est avec nos yeux que nous péchons, c'est avec nos oreilles, c'est avec nos langues, c'est avec nos mains, c'est avec nos pieds, suivant où nous marchons, où nous allons. Mais il y a des choses que nous ne ferons plus. Non pas parce que nous sommes sous la loi du tu dois et tu ne dois pas, mais parce que maintenant, nous sommes en Christ. Et étant en lui, nous marchons comme lui a marché. C'est lui qui est notre contrôle. Et alors, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est? L'impudicité. Je ne vais pas entrer dans le détail. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité ou l'avarice qui est de l'idolâtrie. Je me souviens qu'un prêtre me disait que dans les confessions, il n'avait jamais entendu quelqu'un se confesser d'être avare. Et pourtant, hein, que de fois, on peut avoir un certain amour pour l'argent. C'est à cause de ces choses. Alors vous les avez, ces choses, dans les journaux tous les jours. Hein, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, culpabilité. Et on les cultive, ces mauvais désirs. C'est quelque chose d'effroyable. Alors, nous sommes des idolâtres, on est des baptisés idolâtres. Mais c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le monde, sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est les fils de la désobéissance. L'autre version dit « maintenant hein, ». Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et l'avarice, car l'avarice est une sorte de culte des idoles. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'idolâtrie, alors culte des idoles. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. Hein. C'est ça qu'on appelle les fils de la rébellion. Donc, on ne veut pas se soumettre. Vous vous conduisiez ainsi autrefois. Hein.
Ça, c'était notre vie passée. Quand votre vie était dominée par ces péchés. Voilà la traduction qui est donnée là. Vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Ou, ici dans cette tradition, lorsque vous étiez dominé par ces péchés. Mais si vous êtes mort, comme le dit Romain, l'ectro-romain, en Christ, le péché ne dominera plus sur vous. Le péché ne domine pas sur un mort. Une fois qu'il est mort, il a pu pécher toute sa vie, mais une fois mort, il ne pêche plus. Alors, si vous êtes mort, si vous prenez cette position dans la foi, le péché ne dominera plus sur vous. Mais avant, nous vivions dans nos péchés, nous étions morts pour Dieu alors. Mais maintenant, nous vivons pour Dieu. Et nous sommes morts au péché. Avant, nous vivions pour le péché, mais nous étions morts pour Dieu. Vous avez compris. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Alors, à quoi devons-nous renoncer? Parce qu'avant, c'est des graves péchés, dirions-nous. Mais il faut renoncer à quoi? À la colère. Oh, mais vous dites, mais moi, je n'ai que des saintes colères. C'est vrai? Jésus a eu des saintes colères, oui. Mais nous, nos colères ne sont pas toujours saintes. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Voyez-vous, la colère, quand il en est parlé, c'est la réaction du bien en face du mal. On condamne cela. Mais ça ne reste pas après. Je condamne le mal, mais j'aime même celui qui est tombé. Ou comment on aime le pécheur, mais on déteste le péché. Je les hais d'une parfaite haine, dit le psaume 139. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Vous savez ce que c'est que cette animosité? On n'aime pas cette personne. L'animosité, c'est l'irritation, à la méchanceté, à la calomnie. Et vous savez, on peut tuer les gens par la calomnie. On fait courir des bruits sur eux et on les détruit. Bien souvent dans certains suicides, je ne parle pas de ces suicides de jeunes, mais dans certains suicides, on avait, nous, le sang sur les mains. On a désespéré certaines personnes. Aux paroles déshonnêtes. Alors vous voyez, nous devons faire attention à nos paroles. Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Il doit y avoir aussi un contrôle. Mets une garde à l'entrée de mes lèvres, dit le psalmiste. J'aime beaucoup cette parole. Et puis, quant à nos pensées, Paul nous dit dans le chapitre 10 de la deuxième aux Corinthiens que nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ. C'est toujours ramené au Christ. Penser comme Christ, comme le Christ pensait. Et on peut savoir comment le Christ pensait par les évangiles, puis surtout en lisant les psaumes, où on voit les pensées du Christ. Ne mentez pas les uns aux autres. Est-ce qu'il y a des chrétiens menteurs?
Oui.
Il y a une main qui s'est levée. Oui, il y a des chrétiens menteurs. Et c'est triste alors. Comment voulez-vous que le monde croie? Dans l'éducation de nos cinq enfants, j'ai été surtout sévère sur la question du mensonge. Les enfants sont des enfants. Mais ça, c'était pas toléré. Hein? Parce qu'alors, le mensonge, ça ruine la confiance. Alors, ils peuvent avoir fait des bêtises, mais qu'ils puissent nous les dire. Qu'ils sont dans leurs parents des amis, en leur mère une amie, en leur père un ami, auquel on peut tout confier pour qu'ils n'aillent pas se confier aux autres. Parce que les autres vont leur donner toute espèce de conseils faux. Or, nous avons à faire nous-mêmes l'éducation de nos enfants. Et j'ai fait un temps justement en Italie pour les parents, pour leur montrer, ne vous déchargez pas en disant, mes enfants, je les enverrai à l'école du dimanche. Et puis là, ben, la maîtresse de l'école du dimanche pourra les amener au Seigneur. Ou bien, mes enfants, je les amènerai dans un camp.
Puis voilà, alors on a les camps pour leur conversion. Qui est-ce qui doit engendrer, enfanter deux fois les enfants? Les parents. Par leur amour qu'ils ont pour le Seigneur, les enfants apprennent à aimer le Seigneur. Votre amour pour le Seigneur, eh bien, amène les enfants à voir que le Seigneur est vraiment une personne pour vous. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine. Parce que vous savez, les doctrines, vous pouvez avoir les doctrines les plus évangéliques, ça ne vous tient pas. C'est quelqu'un qu'il vous faut pour remplir votre cœur. Alors, ne mentez pas les uns aux autres. Alors, faisons disparaître le mensonge de nos relations. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'était notre ancienne manière de vivre. Mais par le sang de Christ, nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre, nous dit l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 19, de la première épître de Pierre. Vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre, de votre vaine conduite, par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Vous voyez comme le Christ vous devient cher. Il m'a racheté de cette ancienne manière de vivre, qui est appelée à trois reprises dans les Romains, dans les Éphésiens et dans les Colossiens, le vieil homme. C'est notre ancienne manière de vivre. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Avant le vieil homme, quelles étaient ses œuvres? Celles qui viennent d'être nommées. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de qui? Selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas la connaissance du monde qui vous renouvelle spirituellement. C'est la connaissance de celui qui l'a créé. Et qui est-ce qui a créé le nouvel homme? C'est Dieu. Quand vous avez reçu Christ, vous êtes né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté, du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Est-ce que c'est un fait? Oui, l'apôtre Jean le dit. Voyez de quel amour le Père nous a fait don. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il ajoute, et nous le sommes. Il n'est pas dit que nous le deviendrons. Et nous le sommes. Alors nous louons le Seigneur. Et nous le sommes, alors nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Et vous, vous devenez l'image de Dieu aussi, l'image du Christ. On doit voir en nous. Plus que des doctrines, on doit voir une personne. Vous voyez alors verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. Les scythes, c'était les plus misérables des barbares. Hein. Ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. C'est quelque chose de fantastique. Christ est tout en tous. C'est cela qui doit nous pénétrer. Nous devons être convaincus de cela. Le Christ est en vous. Je dois voir le Christ en vous. Tout en tous. Alors, si je cherche à voir le Christ en vous, je vous aime. Vous me parlez de Christ. Et vous savez, j'ai quelque chose. Voyez, on a parlé du prix de la course. Même un verre d'eau froide aura sa récompense. Vous voyez que c'est dans les petits détails, c'est dans les petites choses que vous pouvez honorer et servir le Seigneur. Alors qu'on veut toujours faire des grandes choses pour le Seigneur, puis on s'embarque dans toute espèce d'œuvre, puis après, on débarque. Ça ne marche pas. Vous auriez dû vous asseoir avant de construire votre tour, pour voir si vous pouviez aller jusqu'au bout. Puis, est-ce que c'était Dieu qui vous demandait de construire votre tour? Alors, vous construisez une tour, puis tout d'un coup, il vous faut 8 millions. Alors vous allez au sommet de votre tour, puis vous annoncez au monde entier par les ondes que si vous n'avez pas reçu les 8 millions avant le 31 mars, vous devez mourir. Puis vous êtes évangéliste. Vous avez vu ça? Puis il les a reçus, ces 8 millions. Il en manquait un. Puis c'est un type qui ne croyait pas du tout. Mais qu'est-ce que vous pouvez déduire ça de ses impôts? Alors, pour se moquer, il a envoyé 1 million. Il y a des gens qui sont assez larges, qui ne tiennent pas tellement à leur argent. Mais même pour se moquer, alors le type n'est pas mort. Mais comme chrétien, il aurait dû se réjouir d'aller vers Jésus. Est-ce que vous croyez que Dieu lui avait dit qu'il allait mourir s'il recevait pas ses 8 millions? Ces visions-là, allez en parler à d'autres. N'est-ce pas? Un chrétien, il a la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. Souvenez-vous toujours de cela. Notre cœur doit être dans le ciel, en communion avec Dieu. Alors, on est réaliste. On ne se perd pas dans les nuages. On n'est pas entre le ciel et la terre. La spiritualité, ce n'est pas cela. Si on n'a pas de masque, on est ce qu'on est. Et on le reconnaît. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça, c'est les habits du nouvel homme. Avant, on a vu les habits du vieil homme. Ben, restons l'homme, le vieil homme, avec ses habits, avec ses habitudes. Enterrons-le avec ses habits. Mais alors, on n'allait pas le déterrer pour reprendre ses habits. Le nouvel homme ne fait pas ce travail-là. Le nouvel homme condamne. Quand il voit cela, que sa chair veut se manifester, bien, le nouvel homme qui est conduit par l'Esprit, qui est en quelque sorte l'enfant de la parole et du Saint-Esprit, notre mère c'est la parole de Dieu, nous sommes nés d'eau, et l'eau est toujours le symbole de la parole, nous sommes nés d'eau et de l'Esprit, n'est-ce pas? Alors on est conduit par l'Esprit et on se nourrit. Qu'est-ce qui nous nourrit? Notre mère, c'est la parole qui nous donne le pur lait intellectuel dont nous avons besoin pour grandir, puis après, il nous donnera de la viande quand nous grandissons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, vous êtes déjà saints et vous êtes déjà bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Puisque le Seigneur m'a fait miséricorde, qu'est-ce que je dois faire aux autres? Miséricorde. Regardez l'apôtre Paul, il avait des entrailles de fer, des entrailles très dures. Il pouvait voir le sang d'Étienne couler puis continuer de persécuter. C'était un homme dur, Saul de Tarse. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il peut écrire aux Philippiens, « Je vous chéris dans les entrailles du Christ. » C'est plus les entrailles de Saul de Tarse, c'est les entrailles de qui? Les entrailles du Christ. Christ en lui, l'espérance de la gloire. Moi, je ne peux pas aimer, mais lui peut aimer en moi. Laissez Jésus vivre en vous. C'est là le grand secret d'une vie cachée. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Ça, la miséricorde, le monde le voit. La bonté, le monde le voit. D'humilité, c'est ça le témoignage. Étant humble, de douceur. Jésus, qu'est-ce qu'il était? Doux et humble de cœur. Alors c'est pourquoi je dis souvent, ne détruisez jamais le caractère du Christ en vous. Un chrétien qui est dur, il me fait peur. Bon, je n'ai pas peur de lui, mais ça me fait peur pour lui. Hein? La dureté, ça ne mène à rien. Jugeons-nous de cette dureté. Elle peut, c'est un sentiment peut-être naturel, mais je veux m'en juger. C'est ça faire mourir. Hein? C'est reconnaître que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bien. Alors, supportez-vous les uns les autres. C'est détestez-vous les uns les autres. Plaignez-vous les uns des autres. C'est ça votre version? Non, c'est pas ça. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous. Mais combien de fois Pierre croyait dire beaucoup? Seigneur,
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera jusqu'à 7 fois? Qu'est-ce qu'il répond le Seigneur? Non pas 7 fois, 70 fois, 7 fois donc, toujours. Ayez l'esprit de pardon. Pardonnez-vous, réciproquement, puisque le Christ nous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et vous savez, quand dans une église, on commence à se pardonner les uns les autres, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Bah, demandez-le pour votre milieu. Moi, je ne connais pas le milieu où vous êtes, mais vous demandez qu'il y ait quelque chose qui change. Et apportez-vous, vous d'abord, le pardon. Mais par-dessus toutes ces choses, parce que toutes ces choses, il ne faut pas les isoler, elles doivent former un tout. Et qu'est-ce qui permettra que toutes ces choses ne soient pas isolées mais forment un tout, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour lie toutes ces choses ensemble. Et alors, il ne faut pas dire, oh ben, ce frère-là, il a vraiment des entrailles de miséricorde, moi je ne les ai pas. Mais moi j'ai l'humilité. Un autre, il a la douceur. Hein? Mais non, c'est pas ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble de toutes les grâces. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, tout cela, c'est un ensemble. Alors, l'amour, c'est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité ou de l'amour. Je préfère le mot amour. Hein. Qu'est le lien de la perfection? Et alors, avec tout cela, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé, donc on est appelé à la guerre? Non, on est appelé à la paix du Christ. Vous restez dans la paix. Pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Qu'est-ce qui doit régner dans vos cœurs? La paix. Ne vous laissez pas troubler. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le monde est troublé, mais vous, dans un monde troublé, vous restez dans la paix. Ne dites pas conjuration de tout ce que le monde appelle conjuration. Restez dans la paix. Et puis, soyez reconnaissants. Est-ce que nous sommes reconnaissants dans cette fin de l'action de grâce? On ne faisait peut-être pas la fin de ce commandement. Que la parole, alors vous voyez le secret, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est toujours l'abondance. Il n'est pas dit que la parole du Christ habite un petit peu en vous. Mais que vous en soyez remplis, que la parole du Christ habite en vous. Elle ne doit pas rester dans le livre, elle doit s'incarner en nous. Alors, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Voilà, nous ne pouvons pas réaliser tout cela dans une retraite, mais enfin, ce sont des choses qui sont là, devant nous. On a là tout un programme, que quand la parole du Christ habite en nous abondamment, bien, on est capable de s'instruire, de s'exhorter, puis Dieu a donné des ministères, des dons, et voilà pourquoi nous avons ces retraites. Et quoi que vous fassiez, alors voilà, c'était la question piège. Vous aviez trouvé la question piège? Qu'est-ce que c'était la question piège? Y a-t-il un nom, un temps ou un lieu pour les œuvres du chrétien cachées avec le Christ? Qu'est-ce que vous répondez? Non. Vous avez compris? Fallait bien que je vous picote un petit peu. Que je sois le frère excitateur. Vous connaissez l'histoire du frère excitateur? Ben, dans les offices des moines, qui ont lieu à 2 heures du matin, et qui durent longtemps, il y en a qui s'endorment. Alors, il y a un frère qui a une petite pique. Et qu'il est quelque part dans les parties molles, et ça les réveille. Et bien, parce que c'est pas toujours facile, hein? On l'appelle le frère excitateur. Hein, 2h du matin, 3h, hein, dans l'office. C'est pas facile. Alors, moi aussi, j'étais le frère excitateur. Là, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est en tout temps. Comprenez-vous? Il n'y a pas une heure, il n'y a pas un lieu, un temps, un lieu ou un nom pour les œuvres. C'est n'importe quelle œuvre. Hein. Soyez prêts pour toute bonne œuvre, vous l'avez compris. Vous voyez comme tout se met en place, comme un puzzle. Hein. Et faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Alors quand on est conscient que la personne de Christ nous habite, quand on est conscient de sa présence en nous, bien tout se rapporte à lui puisque nous avons tout pleinement en Christ. Alors nous ne mangeons pas sans lui. Hein? Alors on mange avec une action de grâce. Et vous savez, c'est très drôle. Un jour j'étais à New York, puis je me suis recueilli dans un restaurant avant de prendre mon petit déjeuner. Puis tout de suite, quelqu'un se lève et dit, monsieur, vous êtes un chrétien? Mais ben, on peut dire, oh ben, je n'ai pas besoin de faire mon geste. Bon, c'est pas le signe de croix, non. Non. Mais on se recueille. C'est une sainte habitude que nous avons prise. Au lieu de commencer tout de suite, vous dites, oh, ben, la prière, c'est parti. Oui, mais ça n'a... C'est pas une sainte habitude. Alors voilà, un geste. Quelqu'un disait, un enfant disait, il n'y a que les animaux qui ne prient pas. Il avait été chez des personnes qui ne priaient pas à table. Mais vous êtes comme les animaux. Oui, la vérité qui sort de la bouche des enfants. Chez nous, on fait la prière. On remercie Dieu pour le repas. Et alors, vous savez, il faut faire très attention. Vous avez remercié Dieu pour le repas. Vous l'avez fait dans la foi. Au camp Mahanaïm, on prie deux fois. Hein. Dans la foi, pour commencer, dans la reconnaissance, pour finir, hein, avant de se lever, on rend grâce pour ne pas se disperser n'importe comment. Mais parce que si on a béni Dieu pour la nourriture, il ne faut pas la critiquer après. Hein, on accepte ce que nous avons. Il ne faut pas faire une scène à sa femme parce que le rôti est brûlé. Il faut en prendre aussi la responsabilité. Nous avons aussi nos responsabilités là-dedans. Alors vous avez rendu grâce et après vous vous fâchez. Je dis ça pour moi. Alors on ne mange pas sans lui, on ne boit pas sans lui. Alors pourquoi faire des impositions? De toute façon, on est avec lui quand nous buvons. Le Seigneur a bu, lui aussi, mais il ne s'est pas enivré. Alors, c'est lui qui est avec nous. Alors, quand il est avec nous, on est gardé du mal. Puis, ce que nous disons, ce que nous faisons, doit être dit et fait dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur dirait une parole pour vous blesser? Moi, je suis capable de vous blesser. Mais le Seigneur ne devrait pas blesser. Le Seigneur peut quelquefois nous éprouver. Vous vous souvenez de certaines personnes qui ont été éprouvées par le Seigneur? Où le Seigneur avait l'air dur. Vous connaissez l'histoire de la femme cananéenne, hein, qui avait une fille cruellement tourmentée par un démon. Puis elle apprend que le Seigneur passe là, dans son pays. Et puis, elle court après le Seigneur, puis elle crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Puis Jésus ne répond pas, elle continue. Puis les disciples commencent à s'énerver. Puis disent au Seigneur, « Renvoie cette femme, elle crie après nous !» Hein? On est gêné avec cette femme, tu ne peux pas la renvoyer. Et alors Jésus sort de son silence, puis qu'est-ce qu'il dit à haute voix? Vous vous souvenez de la parole qu'il a dit? Qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, n'est-ce pas? Puis on ne prend pas le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Mais pourquoi? Parce que les disciples, ils appelaient tous ceux qui n'étaient pas des juifs, ils les appelaient des chiens. Les païens étaient appelés des chiens. Alors Jésus prend le langage de ce temps-là, des disciples, et puis, parce qu'il veut leur donner une leçon, et il dit
devant cette femme, il ne convient pas de prendre le pain des enfants, les enfants d'Israël, il est venu chez les siens, mais les siens n'ont pas reçu un, et de le jeter aux chiens. Puis qu'est-ce que la femme répond? Oui, Seigneur, mais même les petits chiens, elle va plus bas que lui. Elle ne se prend pas pour un gros chien. Elle dit, oui, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il éclate. Et il l'admire. Il dit, j'ai jamais vu en Israël une pareille foi. De sorte que vous voyez, quand Jésus a l'air dur, il n'est pas dur. Il éprouve pour vous donner davantage. Je voudrais que cela reste des convictions, des faits. Je vous ai cité des faits que vous pouvez contrôler dans vos Bibles, même si vous n'avez pas les cassettes. On a pris la parole parce que le Seigneur m'a convaincu l'autre soir quand je disais comment est-ce que je dois présenter mon sujet. Prends l'épître tout entière. Alors j'ai obéi, même si peut-être vous vous attendiez à toute autre chose. On a pris l'épître parce que je dois obéir. Je ne dois pas essayer de vous faire plaisir ou de me faire aimer, mais on a étudié la parole et ma tranquillité, c'est de savoir qu'il vous reste la parole. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que cela, pour moi, ce verset 17, c'est un verset clé de la vie chrétienne. Pour savoir, est-ce que je fais cela ou bien est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je peux faire cela au nom du Seigneur? Si je ne peux pas le faire au nom du Seigneur, c'est pas l'affaire. Et puis, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour cette chose-là? Si je ne peux pas rendre grâce à Dieu, c'est pas l'affaire. Alors vous serez dans l'action de grâce. Est-ce qu'il y a des questions? L'heure est passée. Je vous admire. Vous m'avez supporté. Alors, j'espère que vous gardez dans vos cœurs le passage ou un verset qui vous a fait du bien, vous le partagez. On aura l'occasion encore de voir cela demain. Vous pouvez les noter, une parole dans chaque chapitre qui aurait pu vous toucher davantage. Et on aura un moment de partage demain après-midi avant le culte. Alors peut-être que ça pourrait encourager quelqu'un si vous dites quelques paroles, pas besoin de faire un long discours. Mais est-ce vrai? Tiens, il y a une parole. Mais surtout, moi je ne connais pas vos circonstances. Hein. Vous n'avez jamais été visé. S'il y en a qui disent, c'était pour moi. C'est pas de ma faute. C'est la parole. Elle était pour moi aussi. Comprenez-vous? Nous ne visons personne. Mais tout à coup, quand on est en présence de la parole, on se reconnaît. Tandis, tiens, oui, c'est vrai, j'ai cette tendance, je dois m'en juger. Parce que moi, je pense toujours à Judas. Judas, il aimait l'argent, il s'en est jamais jugé. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un voleur. Et puis, il a vendu son maître. Alors, si nous avons certaines tendances, jugeons-nous. Dans nos pensées, je sais que je peux avoir des mauvaises pensées, mais je m'en juge. C'est ça, se mortifier. Je juge ces pensées-là. Ce n'est pas se faire mourir. Parce qu'on est mort. Comprenez? Mais il y a les membres, là, qui bougent encore. Ouais. Alors. Demain matin, Dieu voulant, donc on va avoir la collation. Ce soir. Réveil musical. Vous savez, les sœurs étaient enchantées de notre violoniste. Il y en a une qui m'a dit, je voulais l'applaudir. Et pourtant, il n'était pas allé pour réveiller les sœurs. Vous voyez, elles ne nous ont pas maudits parce qu'on se réveillait en musique. Vous voyez qu'on se supporte les uns les autres. Alors, à 7h45, on se retrouve ici. Vous pouvez venir déjà avant, puis on est là dans le recueillement. Là, je verrai si je dois être silencieux. Saluer dans le Seigneur et je veux espérer.
que vous avez eu une nuit de repos après cette étude intensive de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas scandaliser quelqu'un en ne faisant pas ce qui est sur le programme, qui était un moment de recueillement silencieux, mais nous voulons nous laisser diriger par le Seigneur. Et alors, ce matin encore, le Seigneur m'a donné cette dernière parole, mais je n'ai pas pu effacer les autres textes. Le texte de bienvenue était là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un verset maintenant que vous avez vraiment dans votre mémoire et dans votre cœur. Hier, dans la journée intermédiaire, la force et la joie sont dans sa demeure. Puis je lui demandais, mais pour aujourd'hui, et il s'est imposé ce texte, qui est en même temps le texte de clôture de cette retraite, et qui est dans la ligne de tout ce qui a été dit, ce qui a été lu. Tout est à vous. Vous le croyez ? C'est pas moi qui vous le dis. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et c'est une assurance. Et alors, le Christ est à qui ? Il est à Dieu. Alors, à qui appartenez-vous ? À Dieu. Vous voyez quel est le chemin. N'est-ce pas merveilleux ? Et je vous le lis dans le contexte. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Vous allez quitter cette maison, cette retraite. Ne parlez pas de l'homme. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Vous savez qu'à Corinthe, on parlait en disant nous, nous sommes de Paul. D'autres disaient nous sommes d'Apollos. D'autres disaient, nous sommes de Céphas, de Pierre. Puis d'autres, nous sommes de Christ. Comme si Paul, Apollos et Céphas n'étaient pas aussi de Christ, n'est-ce pas? Ils avaient peut-être raison de ne pas vouloir savoir autre chose que Christ. Mais il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que nous qui sommes de Christ. Et que les autres, eh bien, seraient des hommes seulement. Alors, il nous faut rester humbles. Et c'est là qu'il est dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, qui est Pierre, mais pas seulement ça, soit le monde. Mais vous dites, mais il ne faut pas aimer le monde. Le monde est pas à nous. Il est aussi à vous le monde, mais vous comprenez dans quel sens, on y passe. Mais c'est le monde que Dieu a créé. Le monde, et même tout ce qui s'y passe, ça ne doit plus vous effrayer seulement. Tout est à vous, soit monde, soit la vie, soit la mort. La mort au ciel est à nous. Elle est vaincue. Et les choses présentes, elles sont à vous. Nous avons vécu des moments intenses dans la parole, ces moments sont à vous, les choses présentes, et puis les choses à venir, celles que vous ne connaissez pas, c'est à vous aussi, tout est à vous, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous, et vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors, pour l'enfant de Dieu, mettre sa confiance dans les hommes, se réclamer d'un homme, eh bien, c'est quoi alors ? Eh bien, ce serait descendre au lieu de monter. Vous devez toujours penser que le Seigneur vous entraîne. Tout est à vous. Ne redescendez pas, ne vous réclamez pas d'un homme.
L'homme, il est un serviteur. Nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes à vous. Je vous appartiens. Mais ensemble, nous appartenons à qui? À Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Non point à nous, non point à nous. Si vous avez reçu une bénédiction, elle ne vient pas de nous. Nous n'avons été qu'un canal. Non point à vous, non point à vous. Mais à ton nom, donne gloire. Et c'est au Seigneur que nous voulons donner gloire. Être à Christ doit nous suffire comme chrétiens. Et tout à l'heure, dans un entretien que nous avions, nous relisions ce texte où, dans la transfiguration, quand les disciples sont tombés sur leur face, le Seigneur les a relevés en leur disant, n'ayez pas peur. Il les a touchés. Il les toucha et leur dit, n'ayez pas peur. Et ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Alors maintenant, j'avais pensé que nous resterions dans le silence. Jean-Yves est arrivé pour contrôler ça. Pas Jean-Yves, Pierre-Yves, pardon. Et pourtant, hier soir, et ça sera très rapide, quelqu'un m'a posé une question qui avait été traitée, évidemment, dans la première. Alors, le premier volet, caché avec le Christ en Dieu. Et j'ai pensé que ceux qui ne l'avaient pas vu pourraient quand même avoir juste une idée. J'avais employé quelques petits schémas pour montrer les grandes vérités du plan de Dieu. Quand on lit la Bible, la première page vous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais pas d'explication sur Dieu, hein. On nous présente Dieu. Dieu qui est la vie infinie, qui n'a ni commencement ni fin. Et ce que nous avons voulu montrer, c'est par quelle figure géométrique représenteriez-vous une vie qui n'a ni commencement ni fin? C'est le cercle. Alors voyez, c'est très simple. La vie non créée, Dieu qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est là, qui est une réalité, on peut le figurer, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par un cercle. Puisque le cercle, c'est une suite infinie de points. Où est le commencement de ce cercle? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? On ne peut pas montrer le commencement de ce cercle. Bon. Ensuite, on a montré que Dieu se présentait dans la parole comme une trinité. Hein? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Un chrétien n'adore pas trois dieux, mais il a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Et alors, par quelle figure géométrique représenteriez-vous la trinité? Le triangle, n'est-ce pas? Et voilà, ce triangle peut être une représentation de la Trinité. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Père. On peut distinguer en Dieu trois personnes, mais on ne peut jamais les séparer. Le Fils est pleinement Dieu, le Père est pleinement Dieu, et le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Et on a donné quelques explications, quelques images de la Trinité. Le soleil, par exemple, on distingue trois choses. Dans le soleil, il y a le foyer inaccessible, ce serait l'image du Père. La lumière qui vient jusqu'à nous, c'est le rayon, c'est l'image du Fils, puis la chaleur, c'est ce que nous ressentons, ce serait une image du Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un soleil. Puis on a donné d'autres exemples, mais qui évidemment ne nous satisfont pas pleinement, parce que c'est un mystère. Mais ne séparez jamais ces trois personnes. Vous pouvez les distinguer. Et vous souvenir, quand Dieu, vous avez un Père, quand Dieu, vous avez dans le Fils, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, et qu'en Dieu nous avons le Saint-Esprit qui rend la présence de Dieu réelle en nous. Et alors, dans son plan divin, ce Dieu trinitaire a conçu ce plan de créer un être au bonheur duquel il allait travailler. C'était l'homme. Et cet homme, il le prédestinait à être semblable à l'image de son